Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les dernières nouvelles de l'association Framasoft. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir J et Pouyou, présents en studio. Et c'est Laurent Costi, chargé de mission éducation et commande numérique au CIMEA, qui animera l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, J, Pouyou, bonjour, je passe la parole à Laurent et aussi le micro.
Alors, merci Isabella. Alors, il y a de l'ambiance dans le studio aujourd'hui. Vous avez entendu quelques canards passer. On va vous expliquer. En fait, il y a une raison. Ça va être assez clair, j'espère, au bout de l'émission. Alors, effectivement, on accueille J et Pouyou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Laurent.
Salut.
On va parler de la campagne de Framasoft qui vient d'être lancée. Campagne extrêmement ambitieuse, mais vous allez pouvoir nous détailler ça. Alors, je donne juste le titre de la campagne, mais vous expliquerai tout à l'heure. Collectivisons Internet, convivialisons Internet. De là, le petit coin-coin de tout à l'heure, mais encore une fois, vous expliquerez. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on parlera des connards pros. Alors, je m'excuse auprès des mamans et des enfants qui écoutent la radio à cette heure-ci. On va prononcer plusieurs fois ce mot, ce gros mot. Alors que ma maman me rouspétait tout le temps, évidemment, quand je prononçais des gros mots.
Quand tu écoutais la chanson de Lio, où elle disait « Mon vieux, t'es un connard », etc.
Voilà, pareil. J'aimais l'écouter en boucle. Donc, le dénominateur commun de ces deux parties, ce sera le capitalisme de surveillance dont on aime parler ici dans cette émission. Ça nous tient à cœur. Et puis, bon, on parlera peut-être un petit peu de BD, on verra si on a le temps. Et ben voilà, du coup, je pense qu'on a... On a introduit l'émission, donc on va parler de coin-coin, de respect, de dividendes. Et puis peut-être que pour commencer, ce serait intéressant que vous vous présentiez. Alors on va inverser hein, par rapport à d'habitude, les gens se présentent. Là, vous vous connaissez un peu, donc je vais demander à J de présenter Pouyou et à Pouyou de présenter J.
Ok, alors Pouyou, alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait un paquet de trucs, cet homme-là. Donc, il a été quoi? Auteur, acteur de théâtre, donc auteur de théâtre aussi, de ses propres pièces. Guide touristique,
oui.
Chroniqueur radio. Auteur de romans, même s'il assume beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais bon, il en a écrit 2-3, on en reparlera peut-être. Et puis, bah, actuellement, co-directeur de Framasoft, hein, quand même, ça claque un peu, moi, je trouve.
Ouais. Je crois que j'ai été aussi youtubeur du cul, mais peut-être vrai, qu'on va pas en parler aujourd'hui.
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu fais du crochet aussi, mais je ne sais, beaucoup. C'est peut-être moins dans le sujet, hein, je ne sais pas. Mais...
Ah, franchement, je peux lier logiciel libre et culture libre avec le tricot aussi, mais bon, ça va peut-être pas faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, toi, J, t'es plutôt quand même voilà, un chantre de la culture libre. Hein, on t'a pas mal connu à l'origine avec des BD, notamment le fameux Geekcionnaire de GKND, etc. Donc à la fois un dictionnaire de BD, plein de jeux de mots pour apprendre les mots-nerds des geeks, et puis toute une histoire aussi avec ces personnages qui découvraient ce monde-là et qui se lançaient dedans. Et puis bah maintenant tu es donc auteur illustrateur donc du blog Grisbouille. Tu es aussi me semble docteur convention 42 en informatique,
c'est
docteur
bien ça? Docteur en informatique,
tout à fait. Voilà et évidemment tu es la moitié d'un connard professionnel et membre de Framasoft, on en parlera aussi.
Merci pour cette présentation. Respectivement, est-ce que l'autre a oublié quelque chose sur l'un et l'un sur l'autre?
Je crois pas. Moi, effectivement, j'ai oublié de préciser que tu étais la moitié des connards professionnels, mais comme c'est le sujet, de toute façon, on va en parler.
Alors, mon petit doigt me dit que tu avais à la naissance un intestin plus long que d'autres personnes.
C'est vrai, effectivement, mais heureusement, on m'en a retiré un bout. Et du coup, ça va mieux depuis. Hein,
donc, ça, c'est le tome mieux. 5 de tes BD.
C'est possible, crois. Effectivement. Voilà. Ouais, ça, tu les as plus en tête que moi.
Hein. Une vertèbre en moins, ça compte ou...
Bon, bah écoutez, je vous propose d'enchaîner peut-être sur la campagne de Framasoft qui vient d'être lancée, qui est encore une fois très très ambitieuse, dans la continuité de ce qui avait été fait avant. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de remémorer aux gens qui ne vous connaissent pas bien ce qu'est Framasoft éventuellement, et puis les campagnes précédentes.
D'accord. Framasoft, c'est une association dont les premiers projets ont commencé sans association en 2001 et qui, l'association est née en 2004. D'ailleurs, c'est marrant, c'était des profs à l'origine, Frama, une prof de français, un prof de maths. Voilà, c'est ça l'origine du nom. Et du coup, on a été énormément à travailler, à être cette espèce de trait d'union entre ce monde parfois un peu spécialisé du libre et puis un public plus grand, plus ouvert. Et donc, comment est-ce qu'amener le libre vers plus de monde, plus de gens, et comment amener les gens vers plus de livres. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé au cours des années. On a eu un vrai tournant dans l'association en 2014, hein, quand on a lancé une campagne qui s'appelait Dégooglisons Internet. Hein, à l'époque, tout le monde disait Google est mon ami. Voilà, et donc on a commencé à informer sur les dangers de la centralisation de tous nos usages Internet sur les plateformes, les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, à proposer des alternatives, hein, tous les services en ligne qu'on a aujourd'hui sur dégooglisons-internet.org, et puis à dire, attention, on ne veut pas devenir le Google francophone du libre et que vous centralisiez tout chez nous. L'idée, c'est de lutter contre la décentralisation, donc on va essayer de décémer, comme ça, de décentraliser. Voilà, et donc c'est comme ça que sont nés notamment un collectif que je crois l'April connaît bien, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Enfin, retenez chaton, ça va plus vite. Voilà,
voilà. L'April a un chaton, Chapril, donc effectivement on en parle très régulièrement des chatons dans cette émission, je crois.
Bien sûr.
On pourrait pas citer toutes les émissions.
Voilà, et du coup on a continué, donc au départ vraiment Dégooglisons Internet, vraiment s'adresser aux individus, finalement de voilà, on a un problème, on a des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour faire ça, voilà. Et puis, on s'est rendu compte très vite que dégoogliser, ça suffit pas, si tu veux, parce que bah, Google, c'est bien gentil, mais si on fait tout le temps comme eux, mais en libre, c'est eux qui tracent le chemin, c'est eux qui décident de la voie de la société. Or, on le sait bien, hein, l'objectif, c'est pas que le code soit libre, c'est que les humains, c'est que la société soit libre. Donc voilà, et donc on a eu une autre campagne entre 2017 pardon, et c'était censé être jusqu'en 2020, mais forcément, avec la pandémie, ça a duré un peu plus, qui s'appelait Contributopia, et où là, on s'est plus adressé au collectif. Donc là, vraiment, l'idée, ça a été de créer des choses un peu plus communautaires, en fait. Donc, ça va être, évidemment, continuer la communauté des chatons, mais ça va être aussi travailler sur des outils fédérés, hein, qui sont, permettent à des communautés de se créer, comme Peertube ou Mobilisons.
Merci Pouillou. Voilà. Du coup, dans l'histoire, j'aurais bien aimé savoir, parce que ça me tient à cœur, quand est-ce que vous avez demandé l'agrément éducation populaire et quand est-ce que vous l'avez obtenu?
C'était pendant Contributopia, il me semble.
Ouais. Alors, de mémoire, ouais, ça doit être 2017 à peu près, sachant que c'est un agrément jeunesse et éducation populaire de Rhône-Alpes, Lyon, c'est ça, c'est Rhône-Alpes. Hein. Je suis nul en géographie, j'ai un diplôme de guide touristique, donc je suis nul en géo.
Il est attribué régionalement, pas voilà, comme un agrément national, comme on peut en avoir aussi.
C'est ça, c'est à ce moment-là, et c'est d'ailleurs sur les demandes de gens travaillant dans le département qui nous ont dit mais pourquoi vous ne demandez pas cet agrément? Enfin, c'est totalement logique vu ce que vous faites. Et c'est vrai que ça a été un changement dans Framasoft. Tu vois, d'ailleurs, là, en 2021, lors de l'Assemblée Générale, on a changé notre objet social, qui n'est plus la promotion du logiciel libre et de sa culture, mais qui est l'éducation populaire aux enjeux du numérique et aux communs culturels.
D'accord, vous me donnerez la recette qui a fait que vous avez abouti à avoir cet agrément, parce que j'essaye depuis longtemps au sein de l'April et j'y arrive pas moi.
D'accord,
mais,
d'accord.
Okay. Voilà, on échangera.
Pas de problème.
L'émission, merci. C'est un petit message à mes camarades. Non, pas du tout. Allez, du coup, alors maintenant, évidemment, on se tourne vers le nouveau projet dans la continuité de tout ce qui a été fait.
Ouais.
Alors c'est assez impressionnant ce que vous envisagez pour dans 3 ans, si j'ai bien compris.
C'est ça, c'est sûr. On aime bien les plans triennaux, si tu veux, parce que ça nous permet de s'organiser, de fixer un cap, et on a besoin comme ça de se fixer un cap et un rendez-vous avec les gens. Alors attention, il y a plein de choses sur lesquelles on n'arrive pas. Dans Dégooglisons, dans Contributopia, il y a eu des ratés, des machins, pas de soucis. Et donc là, cette campagne, on s'est dit, tiens, on s'est occupé un peu des individus, on a fait des choses plus communautaires. Il manque une marche entre les deux, et c'est plus pour les petits collectifs. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née cette campagne. Donc, collectivisons Internet, convivialisons Internet, hein, pour des...
Je t'arrête.
Oui.
On va tester la régie.
Ouais.
Ah, voilà.
Voilà.
Parfait.
Le coin-coin du collectivisons et...
Faudra que je te raconte, parce que je peux dénoncer une personne que vous connaissez bien, et c'est de sa faute. Je peux vous le dire. Donc voilà, il faudra que je vous raconte le nom.
Mais c'est ce qu'on aime bien chez Framasoft, c'est toujours un peu ce côté décalé qui fait que les campagnes, sans doute, marchent aussi très bien.
En même temps, enfin voilà, il y a un côté... tu sais, c'est tellement anxiogène, en fait, de dire « Regarde le monde que les Google et les Meta et les machins nous préparent, les Tesla nous préparent. » C'est si on prend pas de la joie, si on se dit pas « Mais en fait, voilà, moi, le monde qui me fait sourire, voilà celui qui me fait briller les yeux, voilà là où je veux aller. » c'est dur, quoi.
Ouais. Et j'en profite d'ailleurs pour faire la transition avec la suite. On va peut-être parler du manifeste. Mais donc, on a publié notre manifeste pour afficher vraiment nos valeurs. Enfin, parce que quelque chose finalement qu'on n'avait jamais fait, même si on pensait que c'était évident pour pas mal de gens. Puis en faisant quelques enquêtes, on s'est rendu compte que pas forcément. Et dans ces valeurs, il y en a une qui est de ne pas se prendre au sérieux. Ouais. Ça fait vraiment partie des choses qu'on affiche. On avait fait un truc qui s'appelait Framaprout aussi à un moment. Voilà,
oui, Pascal Gaston aime beaucoup me le montrer, effectivement. Donc un site internet sur lequel, en cliquant sur l'extension, tout le mot, par exemple, Premier ministre, Président, est remplacé par Prout, c'est bien ça?
C'est ça, ça. On a Emmanuel Maprout.
Le Proutident, le premier mi-Prout, mini, ouais, le premier mini-Prout, pardon. Enfin, voilà. C'est vraiment, quand tu lis les actualités avec cette extension hein, qui marche
très
bien.
Ça détend, je reconnais que ça détend, ouais.
Et voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tu vois, quand on commençait à faire un tweet un peu revanchard, un peu machin, je me rappelle, j'avais raillé, je sais plus, l'amicale des amis de Microsoft, je crois, qui on nous a montré hein, sur Twitter, qui donc avait un Framalink, donc un raccourcisseur d'URL Framasoft, sur leurs slides. Du coup, je les ai raillés en disant, mais mince, Microsoft, ils peuvent pas vous offrir un raccourcisseur d'URL, je crois qu'ils ont les moyens quand même. Et là, il y a des gens qui se sont dit, oh, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus sérieux que ça, dites donc. Mais vous savez juste que vous ne nous connaissez pas, regardez, Framaprout, c'est nous. Voilà. Et ouais. Enfin, du coup, ces valeurs-là, c'est vrai que c'était important pour nous de les afficher. Ouais.
Merci. Alors effectivement, c'est vrai qu'on pense, enfin, en tout cas, parfois c'est un poids dans les associations de se dire oui, il faut réaffirmer nos valeurs, réécrire notre projet, etc. Ça dépend évidemment dans où est-ce qu'on se situe dans l'histoire de l'association, mais c'est finalement des étapes qui sont primordiales pour fixer à un moment donné l'état dans lequel on est et là où on veut aller. Donc je trouve que c'est chouette de pouvoir afficher ça aussi à l'extérieur, hein, parce que.
Et là, tu vois, sur Collectivisons Internet, enfin sur les 3 ans qui nous attendent, hein, donc de 2023-2025, à la fois, on ne veut pas jeter le passé, on va continuer, là, on a 16 services des Googlisons, on compte bien continuer à travailler dessus, et voire même à les améliorer. On a voilà, des logiciels que nous développons comme Peertube ou Mobilisons pour faire une alternative à YouTube d'un côté et aux événements groupe Facebook de l'autre. Ça aussi, on va vraiment continuer. Mais derrière, on veut faire de nouvelles choses aussi. On veut se lancer de nouveaux caps. Et donc, cette nouvelle campagne, c'est 4 projets. À chaque fois, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à outiller des collectifs, et pas n'importe quel collectif, plutôt des petits collectifs et des collectifs, en fait, militants ou alter. On ne sait jamais trop comment les définir, mais il y a plein de monde, des petites associations, on en connaît plein, et on est d'ailleurs dans une, essaie chacune et chacun de nous offrir une petite bulle d'oxygène dans ce monde envahi par le capitalisme de surveillance.
Donc, voilà. Je me permets de rappeler qu'effectivement, en France, c'est 1,5 million d'associations et 90% d'entre elles sont sans salariés.
Tout à fait.
Donc, on voit très vite à qui vous vous adressez. Et
c'est ça.
Ça fait une quantité d'associations, effectivement, qui ont besoin de structurer leur système d'information.
C'est ça. Et qui, en général, n'ont pas de solutions, ne savent pas chercher des solutions parce que c'est complexe de choisir des outils numériques et tout ça. Et donc, ils vont tomber dans du Google Workspace, des choses comme ça, qui a en tête d'affiche un peu partout, qui est gratuit, etc. Donc, ça va vite tomber là-dedans. Donc, comment trouver, faire en sorte que ces associations, à la fois, aient des outils à la hauteur de leurs valeurs, finalement, qui correspondent à leurs valeurs, et en même temps, qui leur permettent de faire un meilleur travail, de le faire plus sereinement, parce que nous, on a bien envie d'aller vers le monde qu'elles nous dessinent.
Alors peut-être que J peut nous expliquer les quatre axes de ce projet là qui se dessine pour les 3 ans à venir.
Alors les quatre, je sais pas, mais je vais déjà commencer par Framaspace en tout cas. Donc Framaspace, c'est donc effectivement, c'est voilà le point dont parlait Pouyou, c'était une petite asso comme ça qui n'est pas spécialement calée en informatique, va spontanément, quand elle va avoir besoin d'outils informatiques, se tourner vers ce qu'elle connaît. Ça va souvent être du Google Doc pour stocker des choses, enfin Google Drive pour stocker des choses, du Google Agenda, enfin voilà, ou autre chose qui n'est pas forcément Google, mais qui est rarement du libre, décentralisé, comme nous on aime. Et du coup, l'outil principal qu'on a décidé de mettre en avant, alors c'est pas un outil parfait et on le sait, c'est aussi pour ça qu'on va investir dedans, c'est Nextcloud, donc qui est... on va encore le prendre dans le sens alternativa, mais disons que c'est, entre guillemets, une alternative à Google Drive. On va dire que c'est un logiciel qui, à la base, sert à stocker des fichiers de manière partagée. Mais il y a plein d'autres choses dessus maintenant. Notamment, il y a un agenda qui fonctionne très bien, carnet de contact, il y a même des suites bureautiques collaboratives qu'on peut mettre dessus. Et du coup, l'idée, c'était de se dire... alors, on avait déjà fourni une sorte de solution Nextcloud pour tout le monde, comme on le faisait avec des Googlisons Internet, ça s'appelait Framadrive.
Oui, tout pense, à fait. Ouais.
Et le gros problème avec ce genre de projet, c'est que si les gens se mettent à stocker beaucoup de choses dessus, ça prend vite beaucoup de place et ça coûte relativement cher quand même d'avoir des gigas et des gigas comme ça d'espace, surtout si on veut avoir un peu de redondance pour que ce soit, voilà, pour être sûr que les gens ne perdent pas leurs données, bien sûr. Et du coup, là, on a fait le choix de fournir des instances Nextcloud de manière limitée. C'est la première fois qu'on fait un barrage à l'entrée, enfin un barrage filtrant à l'entrée. Donc, alors je ne sais plus c'est quoi l'objectif final, mais là, pour le moment, on va ouvrir 250 comptes.
Alors, ça, c'est d'ici la fin de l'année.
250 instances, pardon.
Voilà, 250 instances. Sachant qu'on soit bien d'accord, hein, ces instances-là, c'est pour à chaque fois une association. C'est une instance de groupe.
Qui chaque instance peut avoir jusqu'à 40, je crois.
C'est 40 gigas et 50 comptes.
Ouais, j'allais dire 40 comptes, mais non.
C'est l'inverse.
C'est ça, voilà. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est Framaspace. Donc, ça, on a ouvert des.
Donc 250 d'ici la fin de l'année. L'objectif, voilà, ce serait 10 000 d'ici 2025. Donc, d'équiper 10 000 assos. D'ici 2025, si on y arrive, on sera hyper fiers.
Voilà. Et du coup, bah là, on a commencé à ouvrir les inscriptions. Inscriptions qui sont, du coup, avec vraiment un formulaire d'inscription où les assos doivent expliquer qui elles sont. Alors, c'est un peu automatisé si vous mettez le numéro de l'asso. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le CIRET, mais c'est un truc du genre.
RNA, je crois que c'est le registre national.
Oui, tout à fait.
Ça peut être pré-rempli en chopant les informations là-dessus. Et après, bah, en fait, c'est nous qui allons juger. Hein, donc, c'était une décision pas facile à prendre quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'on allait être un peu. On est quand même un peu en capacité de décision sur d'autres structures, ce qui pose de toute façon des questions en termes de
choix politique.
Mais enfin voilà, c'est. Mais voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a publié notre manifeste, pour lesquelles on affiche plus nos valeurs, c'est de dire, nous, on veut bien accueillir les gens qui partagent nos valeurs, en fait.
Et pas que, c'est que, d'une part, en effet, il y a cette question des valeurs, tu vois, mais il y a aussi dans les critères, dans les choix, typiquement, on essaie de faire de cette faiblesse une force de ne pas pouvoir accueillir tout le monde en disant, mais en fait, non, il faut favoriser la décentralisation. Si vous êtes, par exemple, une entreprise, une scope, etc., très probablement, vous allez avoir déjà des offres qui existent, des chatons qui sont aussi des scopes, etc., qui peuvent vous accompagner. Vous allez avoir des choses comme ça. Si vous êtes une plus grosse association que 50 membres, vu que nous, on est limité à 50 comptes. Là aussi, il y a des solutions qui existent, notamment chez les hébergeurs des chatons ou dans l'info hébergement libre. Donc finalement, on essaie vraiment de dire quelle est notre place dans ce système. Et notre place, encore une fois, c'est cette première marche à l'entrée, porte d'entrée vers le libre, pour que des personnes qui n'y avaient pas accès jusque-là, qui n'avaient pas les moyens, y aient accès. En fait, et que derrière, elles s'intéressent de plus en plus à Nextcloud, et que si jamais à un moment donné elles ont les moyens, etc., elles puissent aller migrer vers d'autres qui proposent ces services peut-être de manière payante.
Donc globalement, c'est quoi les critères pour être reçu sur les 250 premiers comptes, et puis après plus tard les 10 000 autres, c'est quoi? Il faut pas de salariés? Si, on peut en avoir 3, 4, 5.
Voilà, c'est plus des questions de nombre de membres et de besoins,
d'objets de l'association,
de budget annuel. Enfin, je sais pas si vous avez un budget annuel comme celui de Framasoft, à 600 000 euros, vous avez les moyens
tout à fait.
De vous payer de l'infogérance. À un moment donné, enfin voilà. Donc, ça va être des questions comme ça, en effet. Ouais.
D'accord. Ok. Donc, ça éclaire ce projet-là. Mm-hmm. Effectivement, c'est ambitieux. Ouais.
On peut passer au projet suivant, si tu veux.
Je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie.
Eco Network. Donc, ça, c'est. Alors, Eco, je me souviens plus ce que ça veut dire.
Ethical, Common, Humans and Open Source Network.
Donc, c'est un rassemblement. Je sais pas si on dit juste association ou structure de l'éducation populaire, on va dire, à l'échelle européenne cette fois. Donc, on a une première
rencontre
séminaire d'ouverture en janvier, c'est ça. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de.
J'espérais en fait inviter Morgane Perroche pour tout vous dire, et elle n'est pas venue. Donc, elle nous en aurait parlé, puisque finalement, c'est les CMA qui ont initié le projet
à
l'échelle européenne, et puis Framasoft qui est venu soutenir le projet
en tant que partenaire. On est vraiment ravis, parce que tu vois, ce projet des CMA France est vraiment formidable. L'idée d'avoir comme ça 7 partenaires européens qui vont se rencontrer durant 5 visites d'études. Donc, la première année, on fait 5 visites d'études pour parler entre nous des difficultés à la fois de sa propre transition vers du numérique éthique, et puis des personnes qu'on accompagne, c'est que des structures qui forment des citoyens et des citoyennes. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes vers plus de numérique éthique? Et on va échanger sur nos pratiques, nos difficultés, nos circonstances. Et puis la deuxième année, on va essayer de mettre tout ça dans des communs et des ressources qui puissent être utilisées par d'autres. Et tu vois, le fait que les CMA nous offrent cette possibilité de sortir de notre bulle franco-française et francophone,
C'est formidable parce que ben, moi, je ne sais pas quelles sont les lois sur le numérique et sur l'hébergement en Croatie. J'ignore totalement s'il y a un réseau de chatons en Italie. Et s'il y en a un, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en contact ? Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent en Allemagne aussi. Ça, par contre, on le sait avec Mobilisons, qui sont hyper intéressantes. Et tout ça va vraiment permettre d'essayer de se rencontrer, d'échanger et de trouver les astuces qui marchent chez l'un et pas chez l'autre et pourquoi.
Mobilisons, tu rappelles ce que c'est? Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas?
C'est pour organiser des événements. J'allais encore dire une alternative. Ah, mais ne parlons même pas de ce à quoi c'est une alternative. Ça permet d'organiser des événements et notamment il y avait l'idée de pouvoir de se dire que un des problèmes avec les réseaux centralisés, c'est que on pouvait profiler ton comportement et qui tu étais en voyant tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir des événements professionnels, des événements associatifs, et ça pouvait être un petit peu gênant si professionnellement tu es dans une boîte, mais que tu participes, je ne sais pas, à Extinction Rébellion, quelque chose comme ça. Bah, peut-être que dans ta boîte, ça n'est pas très bien vu. Et du coup, Mobilisons, c'était aussi l'idée de se dire, tu peux avoir plusieurs identités aussi sur Internet. Et peut-être que si tu participes à un événement, justement, de quelque chose qui est militant de manière un peu hard, on va dire, sur les questions écologiques, ça ne regarde peut-être pas ton employeur. Et du coup, ça permettait comme ça de séparer un peu les choses. Et comme à peu près tout ce qu'on essaie de faire maintenant, que ce soit Mastodon, c'est pas nous qui l'avons fait, mais Mastodon, Peertube, tout ça, c'est décentralisé, fédéré, voilà.
Voilà, histoire qu'encore une fois, plutôt que de créer un gros géant, on fait tout un réseau de petits, c'est vachement plus efficace, et c'est Internet comme il aurait dû être rester.
C'est l'utopie initiale d'Internet, la décentralisation, et chacun porte une responsabilité et une part d'entretien de ce réseau-là. Merci à Eugène Rocheco au passage pour avoir développé Mastodon, on en profite, puisqu'on évoque Mastodon.
Ouais, tout à fait.
Alors, peut-être que, oui, on vient de parler un peu de décentralisation.
Ouais.
Il reste encore deux axes dans le projet.
Tout à fait. Il y a notamment, on a parlé de Peertube, donc qui est comme Mobilisons fédéré, décentralisé, mais pour faire des plateformes alternatives à YouTube, donc enfin ou à Twitch, ou on s'en fout, pour faire de la vidéo alternative en fait. Et du coup, encore une fois, plutôt que de faire un géant, on fait plein de petits comme ça. Peertube marche de mieux en mieux. Il y a vraiment, on est à plus de 1000 serveurs Peertube, 1000 plateformes dans la fédération. Quasiment 1 million de vidéos, je crois que je regardais hier, on était à 859 000 pour les instances qui publiques, il y en a qui ne disent pas.
Donc. Et Peertube, ce qui est très important, c'est que nous, on pense, je ne sais pas si c'est une loi qui est vraiment vérifiée, mais que c'est quasiment la seule manière dont on peut espérer en fait faire quelque chose, une alternative crédible à des grosses plateformes comme YouTube, Dailymotion et compagnie, parce que la vidéo, c'est un truc qui bouffe de la bande passante, du 10, c'est énorme. Et le gros avantage de Peertube, c'est que ça fonctionne, non seulement c'est décentralisé, mais ça fonctionne en pair à pair. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo sur Peertube et que quelqu'un regarde la même vidéo, en fait, vous allez aussi lui transmettre des morceaux de vidéo et donc le serveur central sur lequel sont stockées les vidéos ne va pas tomber dès qu'il va y avoir 1000 personnes dessus. Alors, on n'a pas fait des tests aussi gros.
Il y en a quelques-uns. On est en train justement d'essayer de faire de plus en plus de tests sur le passage à l'échelle. Mais vraiment, l'idée, c'est en effet de démocratiser le fait de pouvoir faire une plateforme de vidéo, que pour pouvoir faire une plateforme de vidéo, vous n'ayez pas besoin d'avoir les moyens de Google ou d'Amazon.
Exactement. Alors, je voulais juste témoigner, mais au niveau des CMA, c'est vrai qu'on développe de plus en plus l'utilisation de Peertube. On trouve ça franchement génial. Simplicité incroyable. Alors, il y avait juste peut-être une question à l'époque, je ne sais pas où vous en êtes de ces discussions-là par rapport à la monétarisation. Ouais. Certains YouTubeurs qui disaient, oui, mais moi, je ne peux pas monétiser ma vidéo. Donc, vous en êtes toutes ces réflexions-là. Est-ce que ça évolue? Est-ce que des gens se sont dit, on va mettre au pot et on va développer une fonctionnalité ou pas? Est-ce que ça va
Depuis le début, il y a une fonctionnalité qui existe depuis le début dans Peertube qui peut être activée par les administrateurs ou les administratrices de plateforme Peertube, c'est d'activer un bouton soutenir la vidéo. Et derrière ce bouton soutenir, le ou la vidéaste met ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu peux mettre, pour me soutenir, voici, mon PayPal ou mon RIB, ou pour me soutenir, envoyer une carte postale de chaton mignon à ma grand-mère, voici l'adresse. Tu mets vraiment ce que tu veux. Donc déjà, ça existe. Et en fait, nous...
Ça se paramètre quand on installe l'instance, finalement. Ça se coche. Défaut. Il faut le dire, je vais l'installer.
Pour chaque personne, moi, du coup, j'utilise un petit peu Peertube. En fait, c'est les utilisateurs et utilisatrices qui vont régler ce qu'il va y avoir derrière le bouton soutenir, en fait. Ouais. Chacun sur leur vidéo. C'est pas l'instance qui décide, ça, pour le coup.
L'instance juste dit le bouton soutenir existe ou pas.
Ok, c'est
voilà.
Ça. Très bien.
Et donc, en fait, l'idée, c'est que nous, par contre, très clairement, on s'est dit, on ne veut pas faire une chaîne de télévision. Si tu regardes bien ce que fait YouTube, par exemple, il y a à la fois la plateforme de diffusion de vidéos, mais il y a aussi un algorithme éditorial, donc une éditorialisation comme une rédaction dans une télévision. Il y a aussi une régie publicitaire comme dans une télévision. Et en fait, on a un bouquet de chaînes de télévision. C'est la télé 2.0, ouais. Si tu veux. Et donc, nous, on s'est dit, mais non, on veut juste faire un outil technique parce qu'on ne va pas tout faire. Et donc, le problème de monétisation, le problème de financement de la création culturelle, qui est un véritable problème, on n'a pas les épaules de s'y attaquer, on a les épaules de s'attaquer à la solution technique. Alors, il y a des gens qui ont commencé à faire des choses, à essayer de faire des choses et tout ça, sauf que voilà, bah, c'est des gens qui sont plutôt des fachos de l'alt-right américaine, qui ont essayé de faire des trucs à base de crypto-merdouille, là. Franchement, moi, ça m'excite pas une seconde.
Tu en parlais dans la deuxième partie, j'imagine.
Voilà, comment te dire que... Mais c'est marrant, hein, on voit bien que les valeurs se transcrisent dans les outils, quoi, hein, très clairement. Donc, ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que cette question, elle doit être évacuée. Ça veut dire juste que ça n'est pas nous qui allons la prendre sur nos épaules parce que oui, nous ne sommes
déjà,
pas les
vous avez déjà quatre projets là bien ambitieux pour les trois années à venir, c'est d'accord.
Et sachant que le projet autour de PeerTube, c'était de vraiment répondre à la question, mais maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sert, qui l'utilise, qui partage, mais elles sont où les bonnes vidéos sur PeerTube? On nous le demande souvent. Alors, on a le moteur de recherche, hein, sepiasearch.org.
Ouais.
Voilà. Mais quand même, sepiasearch, tu sais pas forcément ce que tu veux rechercher, voilà, quand tu veux voir des vidéos. Et donc là, on va essayer de faire un site vitrine de PeerTube en disant bah, en fait nous si on bosse sur PeerTube c'est parce qu'on rêve de vidéos, on rêve de plateformes vidéo et tout ça, bah, donc montrons ce pour quoi on travaille. Il y a déjà plein de belles vidéos qui sont partagées, montrons-les. Voilà. Et surtout en les montrant, l'idée c'est de montrer comment est-ce qu'on peut faire de la curation avec PeerTube, que d'autres puissent copier ces recettes là. Et on n'a pas encore commencé hein, sur Peer.tube, on commencera en 2024 je pense, mais il y a aussi une envie d'essayer de commencer à faire communauté. Mmh. En fait, avec d'autres instances, d'autres plateformes PeerTube qui font déjà de la curation. On parle avec skepticon.fr qui est une instance voilà, qui fait du scepticisme et de la science voilà, en français. Chillvids qui héberge vraiment des vidéos en anglais d'amusement et d'éducation. Donc T-I-L-Vids pour Today I Learned vidéo. Voilà, on parle avec ces gens-là, on se dit mais en fait comment est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce que c'est une bonne idée de se rassembler ou pas? Mm-hmm. Sur quelle base? Voilà, puisque nous faisons un travail de curation de contenu et de choix, de mise en avant de contenu, comment est-ce qu'on pourrait parler ensemble?
Merci. Alors du coup en 3-4 minutes maximum, okay. Le dernier point émancipation et puis le financement finalement de cette campagne qui est assez ambitieuse, je le répète, j'ai beaucoup répété mais je pense que c'est vrai.
Emancipasso, donc, l'idée, c'est de se dire que il y a plein d'hébergeurs qui proposent des solutions alternatives, notamment les chatons. Mais souvent, ces chatons, quand une association vient les voir, ils ne savent pas forcément quels sont les besoins, quels sont les enjeux. Donc, faire une formation pour ces hébergeurs, pour qu'ils apprennent comment accompagner les associations. Évidemment, l'idée, ce n'est pas juste faire une formation une fois, hein, c'est que cette formation elle soit reproductible. Donc, derrière, captation vidéo, MOOC, et puis créer une plateforme pour mettre en relation les hébergeurs qui proposent ça et les associations qui auraient besoin d'un accompagnement pour leurs besoins numériques. Voilà pour Emancipasso. Donc là, c'est un gros projet fait en collaboration avec Animafac. Voilà. Et du coup, bah, sur le financement de la campagne, on est en pleine campagne de financement et on est arrivé au tiers ce matin. Donc on a 66 000 euros donc, sur les 200 000 qu'on espère avoir d'ici fin décembre.
Donc, on a vraiment. Préciser, du coup, quand même, qu'on est financé quasiment exclusivement par les dons.
Tout à fait.
Et donc, quand tu dis campagne, effectivement, c'est campagne de dons comme on fait à tous les automnes, je crois. Hein.
C'est ça. Framasoft, là, en 2021, c'était 98,5% de notre budget, c'était des dons. Et 87,5% de notre budget, c'était des dons de particuliers. Ouais. C'est vraiment les gens qui financent ces services pour tout le monde. Et en général, une personne sur 1000 qui utilise nos services finance. Voilà. Donc, si vous voulez être la personne sur 1000 qui finance Framasoft, bah, vous allez sur soutenir.framasoft.org.
Alors, et c'est déductible
des impôts. Ah oui,
ah, oui.
Vous êtes reconnu d'utilité publique.
Tout à fait.
Voilà. Alors, j'avais une question dans le chat qui était il devient quoi, tonton Roger?
Il est à la retraite.
Il est à la retraite. Et puis, effectivement, complémentairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se prendre au sérieux, ce qui aussi peut contribuer au succès des campagnes de Framasoft, c'est tout ce qui est l'illustration. Alors, Guy en fait partie. Hein, il a donné une patte à Framasoft depuis très très longtemps. Moi, j'ai utilisé le dictionnaire, le petit outil là, qui permet de faire des
génial. Enfin, moi, je trouve ça génial pour illustrer des comptes rendus d'activité d'une association. Super. Enfin, voilà, c'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable.
Ça, c'est notre camarade Cyril qui l'avait mis en place. J'en profite pour le remercier.
Voilà, chouette. Enfin, franchement, moi, je trouve que l'outil est vraiment génial. Et puis, effectivement, il y a aussi David Revoy qui est rentré dans la danse depuis et qui a un dessin qui contribue vraiment à faire rayonner Framasoft, quoi, complémentairement.
Alors, déjà, allez voir sa BD libre en ligne, Paper and Carrot, papercarrot.com. Et oui, David Revoy, c'est vraiment, et c'est un tel bonheur de travailler avec lui, si tu savais, parce que c'est simple, c'est fluide, il suffit juste de les idées pétillent. Enfin, vraiment, je vous recommande, faites des prestations avec David Revoy s'il l'accepte. C'est un régal.
On avait prévu de l'inviter normalement. L'émission aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la campagne de Framasoft, c'était G et David Revoy sur la BD.
Voilà.
Hein.
Ben, il reviendra.
J'en profite d'ailleurs pour dire que si ça vous intéresse, si vous êtes sur Mastodon, vous pouvez suivre le hashtag Comics Battle, où en ce moment, David et moi, nous faisons une petite. Une sorte de BD, pas collaborative, mais chacun fait une histoire après l'autre et on s'amuse bien.
Merci, super. Je vais repasser la parole à Isabelle Abani, où il va peut-être y avoir un vol de canard entre temps.
Parfait. Pour la pause musicale, nous allons écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra. Je répète, Golden Duck Orchestra. Je suis très fière de moi. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. My first true love was Italian. She used to drink from a cup. She was a whiz with a saucepan and taught me to mix it all up. Mix it up, mix it up, mix it up, gotta mix it up. Vodka, gin, tea and mambo, chili peppers and wine. Mix it up, mix it up, mix it up. A circus, heard that you go jellyfish. Her brother John had a sex change, and now he's called Sister Trish. Uncle Mohammed was German, he played guitar in Tibet. Cousin Sarah went bonkers, and now she strips on the net. My second love was Brazilian, she used to drink from a mug. She was a whiz with a shaker, and taught me to mix it all up. Mix it up, mix it up. Mix it up, gotta mix it up. Polka, gypsy and mambo, chili peppers and wine. Mix it up, mix it up, mix it up, gotta mix it up. Reggae, bluegrass and tango, cotton candy and thyme. Mix it up, mix it up, mix it up.
Acredita em coisa pura, saiba que um dia água e óleo vão se misturar. É só ver a natureza, a diferença é a beleza. Peixes de um milhão de cores nadando no mesmo mar. E quem não quiser olhar, vai sofrer até cansar. Ideia nova, empolgadura, bate, bate até entrar. Se não quiser desistir, vai bater até cair. Porque rapadura é doce, mas é dura de quebrar.
Mix it up, mix it up, mix it up, gotta mix it up.
Nous venons d'écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra, disponible sous licence libre. Commence CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Avant de poursuivre avec notre sujet principal, je vous rappelle que nous avons ouvert un questionnaire pour mieux connaître notre auditorat. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. Et c'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et donc de nous aider à améliorer notre émission Libre à vous. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavous.org. Je suis Isabelle Lavanine, nos personnes invitées sont J et Pouyou de Framasoft. Cette émission est consacrée aux nouvelles de Framasoft. L'échange est animé par Laurent Costi, chargé de mission Éducation et Common Numérique au CMEA. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission, sous le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, J et Pouyou, je vous laisse poursuivre l'échange.
Et revoilà un vol de canard. Nous magnifique. Reprenons le sujet de l'émission donc sur la campagne de Framasoft. Ouais. On va échanger après sur les canards pro. alors, tu voulais préciser tout à l'heure, Pouyou, un peu l'origine du coin-coin, enfin expliciter un peu le coin-coin.
C'est ça. Si vous allez sur soutenir.framasoft.org, n'hésitez pas. Vous pouvez nous faire un tour, mais deux, vous pouvez voir un peu toutes les infos de ce qu'on vous a dit là aujourd'hui, toute cette campagne et ces quatre grands projets. Et si vous allez sur. Il y a un titre, il y a marqué collectivisant Internet / convivialisant Internet. Et si vous regardez sur ce titre, vous avez un petit canard ou un petit œuf. Et si vous cliquez là-dessus, c'est clairement un easter egg, vous allez avoir l'autre version de cette page soutenir, qui est une version canard. Donc où la campagne s'appelle Coin Coin. Voilà. Et tous les titres et toutes les citations changent avec des jeux de mots autour du canard. Et alors ça, c'est la faute à une personne que je vais dénoncer aujourd'hui parce que je n'ai pas peur, parce que je dénonce. Et en plus, attention, vous la connaissez bien, l'April, puisque c'est Bouquinette. Voilà. En effet, on cherchait le nom de la nouvelle campagne. Voilà, nouvelle présidente de l'April. Félicitations à elle, d'ailleurs. Et donc, on cherchait le nom de cette nouvelle campagne. Alors on était là, on va parler des collectifs, tout ça. Donc, collectivisons Internet, c'est bien, ça va rappeler un peu l'action de dégooglisons et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui disait, en même temps, si on commence à nous dire le collectivisme stalinien, ça, c'est pas trop notre cam, c'est pas trop notre délire, quoi. Il y a convivialisons Internet. Alors, c'est vrai, mais du coup, c'est un petit peu moins, enfin, tout l'aspect un peu politique, la société dont on veut, c'est, à part si on connaît les outils conviviaux de Illich, mais pas beaucoup de monde ont la référence, c'est compliqué. Donc, on échange là-dessus, puis Bouquinette, dans la discussion par email, nous dit, écoutez, les amours, je vous aime beaucoup, mais moi, ces deux noms-là, ils me font pas rêver, quoi. C'est un peu long, et puis, je sais pas, moi, quand je suis sur un stand et que je parle des chatons, mais ça fait sourire les gens, et puis du coup, ils viennent et je leur parle du livre, et c'est trop cool. D'accord ? Et là, j'ai fait une connerie. Non, mais j'avoue, je connais Framasoft, je savais qu'il fallait pas faire ça, mais je sais pas.
C'est vrai que tu dis que c'est Bouquinette, mais c'est quand même beaucoup plus de ta faute. Hein,
c'est d'accord, ouais. Si les slogans de Framasoft sont trouvés par l'April, ça va quand même pas, ça va pas le faire. Les gens tombent.
J'ai répondu à Bouki, j'ai fait écoute, c'était pour la blague, et j'ai pas réfléchi qu'il faut pas blaguer avec Framasoft. J'ai fait écoute, Bouki, viens pas me chercher, sinon le nom de la campagne c'est collectivisons Internet / convivialisons Internet, et le surnom c'est Coin Coin.
Et je pensais... Tout le monde a fait « Ouais, trop bien !»
Voilà. Et là, tu te retrouves dans la communication en disant « Purée, on a un projet, enfin voilà, il y a une ambition politique, un machin. » Et là, coin, coin, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Voilà. Et donc, j'ai même été payé par Framasoft et mes collègues à la communication, Roar, Engie, etc., Pig. On a été payé pour prendre du temps pour savoir comment est-ce qu'on appelle un groupe de canards, hein. Quand ils sont dans l'eau, c'est un radeau. Quand ils sont en l'air, c'est une troupe. Hein. Voilà, merci Internet. Mais voilà, c'était. Donc, du coup, on fait plein de jeux de mots pourris à voler dans les plumes des GAFAM et à se prendre le bec contre le capitalisme de surveillance.
Bah là, c'est très clair pourquoi les coins-coins traversent tes missions depuis le début. N'est-ce pas, Étienne?
Oui, ce que j'ai bugué tout à l'heure, et en fait, en anglais, c'est flock. FLO, ah oui. FLO, c'est clair. C'est là-dessus que je me suis embrouillé.
Un dernier petit canard, Étienne, avant de passer au canard pro.
Dans le café.
Merci. Alors, c'est vrai qu'on voulait consacrer la deuxième partie de l'émission plutôt à ce que vous faites tous les deux, mm-hmm. complémentairement, très complémentairement finalement à ce que fait la campagne de Framasoft. On retrouve ça sur le site connard.pro.
C'est ça.
Donc, j'ai bien dit un gros mot. Hein. Ah, alors, ouais. Je pouvais faire caonard pour les enfants, mais voilà. Donc, connard.pro, essayez de nous raconter un petit peu la genèse de ce site-là, parce que
ça m'intrigue. En fait, c'est à la base, ça vient, j'ai dit que je ne l'assumais plus trop, mais Pouyou avait écrit plusieurs bouquins. Le premier, ça s'appelait Smart Hardhead, je ne sais pas comment on dit. Et dans ce livre, le personnage principal se présentait comme connard professionnel ou ingénieur. En cela, qu'il utilisait la malveillance comme source de profit. Donc, emmerder les gens pour faire de l'argent.
Voilà. Ça n'arrive pas dans notre monde, heureusement.
Non, ne pensez donc jamais.
Et il m'est arrivé, j'étais en thèse à ce moment-là, et je me faisais la réflexion en étant dans une salle de classe où il y avait un écran de projection que s'ils avaient juste mis des murs blancs, ils n'auraient pas eu besoin d'acheter d'écran de projection. J'en ai parlé à Pouillot, on a commencé à délirer là-dessus, à se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des connards professionnels qui forcent les universités à mettre des coloris dégueulasses sur les murs, tu vois, des trucs... Enfin, je ne sais plus ce qu'on avait mis.
Vert moisi, jaune vomi, jaune pisse, enfin voilà, truc comme
voilà.
Ça, quoi.
Et de fil en aiguille, on a commencé à se dire qu'on... Moi, je faisais déjà des petits dessins, bah, Pouillot était auteur, on s'est dit, bon, bah, on pourrait faire quelque chose ensemble, et on s'est dit qu'on allait faire le guide du connard professionnel. Du coup, donc, le premier épisode est sur les écrans de projection.
Tout à fait.
Mais après, c'était très facile de trouver d'autres choses, en fait. Hein, et les gens nous aidaient sur les réseaux sociaux.
C'est ça, il suffisait d'étudier un petit peu le marketing. Hein, je veux dire, l'ouverture facile qui ne s'ouvre pas facilement, c'est une vraie chose qui existe vraiment en marketing, ça s'appelle le syndrome de l'huître. D'accord ? Parce que quand tu as du mal à ouvrir ton truc et que tu y arrives enfin, ah, il y a un soulagement. C'est une émotion bénéfique qui est associée avec le produit que tu découvres à ce moment-là. Le produit a donc plus de valeur. Ça s'appelle le syndrome de l'huître, tu as trouvé une perle. Allez en école de commerce, hein, vous allez voir.
Donc ça, c'est dans votre spectacle, alors du coup, puisque maintenant, vous disiez presque un...
Ça, non. Alors, juste, je finis rapidement sur la... Donc ça, c'était aux alentours de 2014-2015 qu'on a fait ce truc-là. C'était sous licence domaine public volontaire, donc Creative Commons 0. On avait fait un petit truc de financement à l'époque qui était sympa, c'est que donc, les gens pouvaient nous faire des dons. Et alors à l'époque, on s'était fixé comme objectif de faire un épisode toutes les deux semaines.
C'était ça, ouais.
Et ce qui arrivait, c'est que si la barre de dons était remplie, il y avait un épisode bonus déclenché, et du coup, il y avait un épisode la semaine où normalement, il n'y en avait pas. Donc ça a été rempli 2-3 fois, je crois, tout. Et après, malheureusement, on a un peu perdu l'énergie, l'envie de faire ça. Donc le projet est un peu tombé en...
Ouais, en jachère.
En jachère,
en
jachère,
tout simplement.
Et... Il s'est réveillé cette année. Alors cette année, donc moi j'étais dans une phase où je nettoyais un peu mes vieux projets, comme le Geeksionnaire qui était sur un vieux site plus très très à jour, que j'avais tout bien rangé. Et du coup l'admin 6 Luc de Framasoft me disait est-ce que tu voudrais pas faire pareil pour les connards pro, parce que c'est pareil, le site est un peu vieillot. Et du coup je m'étais dit est-ce qu'on ferait pas un épisode de conclusion pour en profiter, bien finir le truc. Donc je le demande à Pouillou, je lui dis en plus. On n'a pas été là pendant tout le quinquennat Macron. Est-ce qu'on pourrait le premier? Est-ce qu'on pourrait pas se dire le quinquennat Macron, c'était un peu les connards professionnels au sommet de l'État, Et finalement, ça a pas tourné comme ça. Mais du coup, j'espère.
Non, parce que du coup, moi, plus difficile d'écrire parce que je suis à plein temps sur Framasoft et j'écris beaucoup finalement dans mon cadre de mon travail pour Framasoft. Donc voilà. Et puis, en même temps que Jim dit ça, Pig, mon collègue à la co-direction de Framasoft, me dit aussi, tu sais, un jour faudrait, vu que toi tu bosses beaucoup sur l'économie de l'attention et tout ça et ces mécanismes-là, faudrait qu'on ait une conférence un peu de référence là-dessus. Et puis, on a une vidéo, on peut, pour dire en une heure ou deux aux gens, comment ça marche et c'est quoi l'état des lieux. OK. Ces deux idées-là sont dans ma tête, à un moment donné, il y a des besoins. Très bien. Arrivent donc les élections présidentielles de 2022, le résultat du premier tour. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu vénère. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'avais besoin de me défouler. Et d'un coup d'un seul, ces deux idées se rencontrent dans ma tête. C'est-à-dire que plutôt que de faire une énième conférence sur le capitalisme de surveillance et l'économie de l'attention en disant mais comment est-ce que c'est affreux ce qu'ils font les géants du web, comment est-ce que le numérique qui était un idéal magnifique, une utopie formidable, comment ils nous l'ont dévoyé par le marchand et tout ça, l'espace marchand, c'est déprimant possible. Et si au contraire on faisait l'inverse, on disait mais vous savez quoi, on va vous expliquer. Comment devenir des winners du capitalisme de surveillance? Comment devenir des connards professionnels? Nous sommes des connards professionnels, nous allons vous former, vous, bébé connard et bébé connasse. Voilà. Et donc, repartir à l'inverse. Et ça, mais ça a été jubilatoire. Je me suis défoulé pendant une semaine, sur mon temps Framasoft, parce que Framasoft héberge le site desconnards.pro, enfin, c'est un partenaire, des connards pro. Et donc, j'ai commencé à me lancer dans un pad sur cette conférence, et G est venu me rejoindre sur le pad, et on a bien, bien, bien déliré ensemble.
Oui, et puis du coup, on a écrit cette conférence. Donc c'est vrai que le gros de la matière a été écrit par Pouillou. Et après, moi, j'ai rajouté des bêtises. Après, on a commencé à la répéter. On a rajouté des bêtises pendant les répètes parce qu'on trouvait d'autres choses, forcément. Donc au départ, c'était une petite conf d'une heure. Maintenant, elle fait 1h40, je crois.
Ouais.
Et puis, on l'a joué pour la première fois. C'était au Geek Ferries. À
Celle-sur-Cher.
Celle-sur-Cher, voilà. Ouais. dans des conditions, il y avait un orage, on savait pas si ça allait sauter ou pas.
Il y avait la fin du monde juste avant le spectacle.
Ah ouais, voilà. c'était incroyable. Il y avait un mec bourré qui nous a emmerdé pendant toute la première partie de la conférence. C'était bon, voilà.
C'était au mois de mai cette année 2022. Hein,
c'est ça. Et finalement, on l'a rejoué cette fois dans des conditions qu'on avait prévues pour faire une captation. Donc c'était pendant un Framacamp, donc en gros un week-end où on se retrouvait avec les camarades de Framasoft, où là on s'est mis vraiment dans des conditions avec une belle caméra, avec un bon son, et on a fait une captation que après j'ai montée, voilà, en coupant les passages où on avait merdouillé tout ça, et on l'a sorti cet été.
Tout à fait.
Et après, du coup, on en a profité, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va vraiment finir le bouquin. Enfin, le bouquin, à l'époque, c'était pas encore un bouquin, mais on va finir le blog. Et au lieu de faire un épisode final comme je voulais le faire, on en a fait 3 qui reprennent la trame de la conférence, en fait. Et bah, on a fait ça pendant l'été, en gros. C'est et ça. Puis, bah, on a sorti la nouvelle version du site, les épisodes inédits et la version livre, parce qu'on l'a publié en livre. Au mois de novembre, je crois.
Tout à fait. Qu'on trouve sur le, non, sur le site,
connard.pro. Et donc, c'est un bouquin qui est, comme le blog, sous licence domaine public volontaire. Donc, vous pouvez le scanner, le revendre, faire ce que vous voulez avec. Ça nous embête pas. Et j'en profite pour dire qu'on le dédicacera à la librairie de Bookinet. Voilà,
encore elle, elle est partout.
Jeudi après-midi, du coup, je ne sais plus à partir de quelle heure, 16h,
c'est ça. Ouais, jeudi à partir de 16h à 19h, voilà. Et d'ailleurs, là, en sortant de la radio, on va donner la nouvelle conférence, parce qu'entre-temps, bah, on s'est rendu compte de plein de manières de l'améliorer, donc on l'a réécrite. Attention, elle est plus longue, mais elle est moins dense aussi, parce qu'il y a eu trop de choses, donc on a essayé de prendre plus de temps pour prendre plus de plaisir et que ce soit plus abordable pour les gens, en fait. Voilà, et moins pour les spécialistes. Et donc voilà, là on va la faire dans à l'école 42 parce qu'on est invité par les copaines de la Contrevoix, hein, le chaton de la Contrevoix. Et jeudi soir, donc c'est le 8 décembre au CICP rue Voltaire à Paris. Vous pouvez nous rejoindre, c'est à partir de 20h me semble-t-il.
C'est ça.
Voilà. Et l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas, venez voir les connards professionnels.
On encourage tout le monde à y aller. Alors peut-être que pour ceux, alors nous on baigne effectivement dans ces sujets-là, Framasoft, l'April, etc. On regarde cette question-là depuis très longtemps, on creuse ces sujets-là. Pour des auditeurs qui seraient actuellement à la radio, qui ne connaîtraient pas bien ces sujets-là, qui ne comprendraient pas pourquoi il faudrait se méfier des GAFAM, enfin des géants du net en général, hein, puisqu'il n'y a pas que les GAFAM. Oui. De l'autre côté, il y a aussi, aussi des belles entreprises qui captent de la donnée et parfois même de manière encore plus violente en Chine avec la reconnaissance faciale, etc. Est-ce que, alors je vais faire un peu le sérieux, hein, je suis désolé, on peut peut-être passer un petit coup de canard avant, mais merci Étienne, mais oui, comment on peut expliquer simplement aux gens ce qui se trame, ce qui se joue avec ces géants du web qui centralisent la donnée, qui captent de la donnée, je sais pas, alors on a 10 minutes, c'est pas forcément évident, mais...
Bon, tu disais que le capitalisme de surveillance, vous en parliez quand même de temps en temps ici, mais bon, on va quand même rappeler que c'est pas le capitalisme, ça veut pas dire qu'on va faire de l'argent sur les outils de surveillance, sur les caméras de surveillance, tout ça, c'est pas ça. C'est comment on fait de l'argent sur le fait d'espionner et de mettre les gens sous surveillance. Et notamment, il y a un truc dont on parle beaucoup dans la conférence, c'est le fait qu'on ne capte pas les données personnelles des gens, mais vraiment leur comportement. C'est-à-dire qu'on enregistre comment les gens se comportent, et grâce à ça, on arrive à monétiser. Alors, ce qui est l'exemple probablement le plus simple et celui qui est le plus inquiétant, c'est celui de l'influence des élections. C'est assez connu, il y avait eu le scandale Cambridge Analytica. Donc, simplement en sachant comment les gens réagissent à telle ou telle info. Ce qui est très pervers, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire campagne pour quelqu'un. Vous pouvez juste, par exemple, faire une campagne. L'exemple qu'on donne dans la conférence, oui. On peut peut-être le faire.
Oui, Trinité et Tobago.
Donc, c'est un endroit où vous avez deux partis, le parti des Noirs et le parti des Indiens. Et en gros, ils ont utilisé juste deux informations qui ont l'air toutes bêtes pour faire gagner le parti des Indiens. La première information, c'était que les jeunes s'abstiennent plus que les vieux. Ça, c'est, okay. Ça, c'est assez.
On vote moins.
C'est le cas partout. Hein. Et deuxièmement, c'est que la hiérarchie familiale était beaucoup plus forte dans le parti des Indiens.
Et du coup, là, ça y est, tu as gagné les élections, en fait. Alors, pourquoi tu as gagné les élections ? Parce que la plupart des élections aujourd'hui dans nos démocraties se jouent à trois fois rien. Donc, en ciblant une partie très précise de la population, tu peux finalement décider de qui va diriger l'État.
Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est là où c'est vraiment pervers, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait campagne pour le Parti des Indiens. Ils ont fait une campagne pour favoriser l'abstention chez les jeunes. Donc, un truc qui dénigre le scrutin, qui dit abstenez-vous.
Élection piège à con, tout ça, tu vois.
Mais comme la hiérarchie familiale est plus forte chez les Indiens, et ben là, même si t'as dit élection piège à con, en fait, papa, maman te disent d'aller voter, donc t'y vas. Ce qui fait que les Indiens sont beaucoup moins abstenus que les Noirs, et du coup, ils ont gagné. Et voilà. C'est vraiment un truc extrêmement pervers.
De même, hein, pour toujours Cambridge Analytica, donc en fait c'est SCL, hein, l'entreprise qui est derrière Cambridge Analytica, pour l'élection de Trump, visait énormément les personnes racisées qui auraient plutôt voté Hillary, mais pour qui Hillary n'était pas soit assez à gauche, soit assez au point sur les questions racisées. Et il les visait pour que ces personnes restent assises le jour du vote dans leur canapé et n'aillent pas voter. Comme ça, s'ils ne votaient pas pour Hillary, Trump passait. Donc, ils ont favorisé l'élection de Trump, ils ont favorisé le Brexit, etc. Je vous recommande vraiment, là, aller sur le blog des copines de Hacking Social. D'ailleurs, c'est aussi sous licence libre. Hein, voilà. Elles ont fait toute une enquête sur Cambridge Analytica qui est formidable. Il faut vraiment voir, ça va au-delà des manipulations d'élection. C'est des manipulations de population, notamment Steve Bannon a travaillé avec Cambridge Analytica. En faisant des tests scientifiques sur des centaines de milliers de personnes sans qu'elles s'en aperçoivent, pour voir comment manipuler leur opinion et comment les polariser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde s'engueule et personne ne s'écoute, c'est grâce au travail, à cause du travail scientifique de Steve Bannon et de Cambridge Analytica, qui ont fait des tests scientifiques sur les gens, qui ont vu ce qui marchait et qui ont utilisé ça à grande échelle avec les sites d'information de Steve Bannon, donc Breitbart News, là, ces horreurs-là, et de la publicité ciblée.
Et je précise qu'il a dit grâce parce qu'il est déjà dans le personnage de la conférence. Oui. Là, on présente ça comme...
C'est un connard de génie, donc, Steve Bannon. C'est un connard professionnel. Vous voyez, vous vouliez savoir, voilà.
Et donc, respect et dividende à Steve Bannon.
Tout à fait.
Respect et dividende à Steve Bannon, bien sûr. Donc, pour ceux qui ont vu la conférence ou qui la regarderont, ils comprendront à ce moment-là. Alors, effectivement, du coup, on mesure bien ce qu'on évoquait en début d'émission, la question de la décentralisation. Finalement, c'est extrêmement important pour éviter de donner le pouvoir à une entreprise et qui peut influencer directement les démocraties, quoi.
C'est ça. Qui peuvent influencer la culture aussi. Enfin, comme je dis, j'ai été YouTuber. Si tu veux, moi j'ai vu comment, parce que j'étais dans ce milieu de vidéastes, notamment en 2014-2015, quand il y avait un aspect un peu radio libre, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, c'était génial, tu vois, il y avait une dynamique magnifique, vraiment. Et tu vois des gens qui, d'un coup d'un seul, vont commencer à se mettre à faire des titres, ça tourne mal, prank, à faire des gueules bizarres sur leurs vignettes, en fait, et à changer leur contenu, tu vois, qui faisaient des vidéos de 45 minutes parce que ça les éclatait, mais non, l'algorithme, il te dit que tu dois en faire 3 à 5 minutes. Et puis non, ça va plus maintenant, 2 ans plus tard, il faut faire des 7 à 9 minutes, à 12 minutes, et puis raccourcir ton générique et dire abonne-toi, mets la cloche. Mmh. Tu vois que dès que tu as plus de 2000 abonnés, Google t'offre une formation. Ah non, YouTube, ouais, moi j'ai suivi la formation, j'étais malade comme un chien, j'ai fait chier le mec à mort parce que je l'ai poussé dans ses retranchements de partout, je voulais savoir ce qu'il disait. Mais t'as une formation en ligne avec des slides et tout, qu'il te donne jamais bien sûr. voilà, mais pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes vidéos soient en tête d'affiche. Alors à l'époque, il t'éduque, il te dresse. En fait, et fondamentalement, en choisissant la plateforme et en choisissant quelles sont les récompenses que tu auras sur la plateforme en tant que créateur, ils choisissent comment est-ce que tu vas créer, le format de ce que tu vas créer, mais le fond et la forme, quand on crée, est toujours là, va toujours ensemble. Et donc, ils changent la culture. Donc, ça change la politique, ça change la culture. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul endroit où on va voir la vidéo, il n'y a qu'un seul endroit où on prend son email, il n'y a qu'un seul endroit où on discute avec ses potes.
Alors si je poussais, je me fais un peu l'avocat du diable, mais la décentralisation, est-ce que finalement on sépare pas aussi des cultures ? Comment on fait pour lutter contre ça avec la décentralisation ? Il y a des moyens, j'imagine, quand même, pour rassurer un peu les auditeurs.
Alors,
parce que c'est ce qu'on pourrait objecter.
Ouais, mais je suis même pas sûr que cette objection soit juste. C'est-à-dire que, moi, je suis désolé, mais les bulles sociales, il n'y a jamais eu besoin d'Internet pour qu'elles existent, quoi. Ben voilà, très clairement, quand je vais au café du coin dans le petit village du Tarn que je suis, c'est une bulle sociale. Quand je suis dans des associations libristes, c'est une toute autre bulle sociale. Et sociologiquement parlant, c'est pas du tout les mêmes catégories, c'est pas du tout les mêmes personnes. On est déjà dans des bulles, en fait. On a juste reproduit ça sur Internet et derrière, le capitalisme s'en est servi pour nous manipuler.
Et juste au niveau de la décentralisation, il y a quand même quelque chose qui est très important, dont on parle aussi dans la conférence, c'est la fédération. C'est-à-dire que, certes, on va avoir plusieurs îlots, plusieurs instances Peertube, Mastodon, tout ça, mais elles peuvent communiquer quand même. Alors bon, ça ne va pas régler le problème des bulles sociales, qui n'est pas un problème technique. Mais par contre, on ne sera pas pire que YouTube, de toute façon.
Oui, et puis le fait peut-être que chaque instance est gérée par un groupe à une échelle humaine va faire que ça va se réguler de manière un peu plus naturelle que une personne qui décide pour l'ensemble.
On peut négocier, on peut discuter, ouais, tu vois. Enfin, va frapper toi aujourd'hui à la porte de Google parce que y a un problème, t'as un problème avec leur service. C'est complexe, tu vois. Et notamment, enfin moi, il y a un truc qui m'intéresse sur ces questions de sphère sociale, tout ça, c'est que à un moment donné, ça n'est pas, c'est important de pouvoir se cloisonner et se fermer à certaines cultures. On sait très bien que pour combattre l'extrême droite et le fascisme, à un moment donné, il ne faut pas lui donner d'attention, il faut l'ostraciser, il faut l'enfermer dans sa bulle. Et c'est comme ça qu'on l'éradique. Ça, vraiment, il y a des études scientifiques là-dessus, hein, voilà. Et notamment, c'est ce qu'on peut faire avec ces outils de fédération. Et souvent, ce sont des personnes qui veulent que ces discours-là aient un accès au grand public, qui disent « Ah, mais pourquoi est-ce que vous ostracisez ?» Ben non, en fait, c'est très, très utile à un moment donné, de pouvoir se protéger parce que tous les discours ne sont pas égaux. Quand il y a des gens qui disent « on veut tuer les personnes comme ci » et d'autres qui disent « on veut survivre », moi, je me vois pas dire « eh, on peut pas trouver un juste milieu
?» Intéressant. Comme
et puis sur tout cet aspect aussi des centralisations, l'un des gros avantages, c'est que par rapport, voilà, vous avez une entreprise comme Cambridge Analytica, enfin, peu importe qui, en fait, qui veut avoir un levier d'influence comme ça pour gagner une élection, il a un bouton à appuyer. Mais vraiment,
une c'est porte ça. À frapper.
Ouais, c'est ça. Là, il en a des milliers. Alors,
ils ne sont pas forcément d'accord.
Je dis pas que c'est pas totalement faisable, hein, mais ça va demander un peu plus d'effort quand même. Et ça, ça c'est bien de demander plus d'effort aux gens qui veulent manipuler les choses. Moi, j'aime bien l'idée.
C'est pas mal. Merci pour ces, c'est assez intéressant ces échanges là. Alors, par rapport à la collecte de données, peut-être qu'on peut on peut faire une liste de cadeaux qu'il ne faut pas acheter à Noël.
Alors, il y en a un qu'il faut acheter, c'est le guide du connard professionnel.
Oui, voilà, si on déjà.
C'est ça. Vous pouvez même ne pas l'acheter. Il y a pas de problème. Vous pouvez l'imprimer chez vous, etc. Il y a pas de souci. On est pour ça.
Pardon.
Non, mais en fait, vraiment, on voit bien que tous ces objets connectés, etc. Voilà, c'est de la captation de données. Après, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime énormément. Il y avait un article de Kashmir Hill, journaliste formidable, qui a connecté sa maison pendant un mois. Elle a mis tous les objets connectés qu'elle a pu trouver. Voilà. Et elle a demandé à l'administrateur système d'analyser aussi ce qui sortait de sa box. Donc voilà. Et au-delà de l'analyse technique qui est formidable, sa conclusion était magistrale. C'était pas la question des données. Elle fait la maison connectée, c'est chiant. Ma maison me donne des ordres. Ma maison me dérange toutes les 5 minutes parce que j'ai plus de café, parce qu'il faut que j'étende mon linge, parce que machin. J'en ai ras-le-bol. Je n'ai pas le contrôle de ma maison. C'est elle qui me contrôle. Et informatiquement, tu peux pas faire autrement qu'à un moment donné dire à humain, tu dois faire ça. Tu vois. Et donc ça, c'est peut-être aussi, ça montre très très clairement le choix de société que l'on veut, en fait. À quoi doit nous servir le numérique? Le numérique, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir de la technologie, et même si moi je suis vraiment techno-geek, je suis à fond là-dessus, je suis très enthousiaste, mais c'est finalement, mais quel monde on veut? Est-ce qu'on veut un monde où notre lave-linge nous engueule, notre ceinture nous engueule, et puis notre voiture nous dénonce? Est-ce qu'on veut ça?
Et puis notre espion là, la boîte Google ou la boîte Alexa là, qui ne nous écoute pas mais qui nous écoute quand même parce qu'en fait bah oui, il faut bien qu'elle écoute si on l'appelle, donc qui capte de la donnée aussi, donc ça, encore un cadeau à ne pas acheter. Mais
il paraît que Alexa, ça va bientôt être fini, hein. J'ai vu ce truc là qu'apparemment c'était un énorme échec de Amazon.
C'est pas du tout rentable pour eux, ouais.
C'est triste.
C'est ça. D'autant plus que tu sais, les gens qui te disent mais non, ça t'écoute pas parce que c'est traité en interne.
C'est ça.
D'accord, va dire ça. Enfin, faut regarder le travail d'Antonio Casilli, hein, aux travailleurs et travailleuses du CLIC, notamment à Madagascar, qui, comme l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente et ne marche pas, à un moment donné, t'as des gens qui écoutent ce qu'ils se disent pour le taper dans l'ordinateur pour que l'ordinateur s'entraîne et comprenne. Si tu veux. Et ça, c'est des travailleurs et des travailleuses qui sont totalement exploités à Madagascar. Est-ce qu'on veut aussi de ce monde-là? Tiens, parlons-en. Voilà. Et qui écoutent donc nos conversations. Ça s'est passé aussi avec Apple. Ça s'est passé avec Apple et Siri, hein, leur assistant vocal. Ça s'est passé avec Google. On a vraiment des témoignages de partout sur ces choses-là. Il y a plein de gens, en fait, qui, aujourd'hui, tapent les phrases qui sont entendues.
Merci tous les deux. On arrive au bout du sujet long. Le temps est passé extrêmement vite. On aurait encore eu 42 milliards de choses à dire. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant que je passe la parole à Isabella?
Prout.
Ah oui, Prout, c'est une bonne conclusion. Si, non, moi je suis obligé, je suis salarié Framasoft, donc soutenir.framasoft.org. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir.
Ouais. Ok, bon. Et puis la prix, avant de passer la parole.
Oui, tout à fait. Important.
Merci Laurent, merci à nos deux invités, J et Pouyou.